Radio Okapi. Grande interview.
Lutte contre l'épidémie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, les ambassadeurs des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni, ainsi que le directeur de l'INRB, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, ont séjourné dans cette province frappée par la maladie depuis maintenant 4 mois. Objectif, s'imprégner de la manière dont la RDC fait face à cette énième épidémie, afin de bien orienter l'aide de ces trois pays respectifs. Pour en parler, nous recevons dans ce numéro de grande interview un panel constitué des ambassadeurs des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni, trois pays engagés aux côtés de la RDC dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur. De retour d'une visite de cette province, ces trois ambassadeurs saluent les efforts consentis par la RDC pour limiter la propagation d'Ebola. Mike Hammer des États-Unis, Emily Maltman du Royaume-Uni ainsi que Nicolas Simard du Canada ont aussi rencontré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour lui assurer le soutien de leurs pays respectifs. Dans cette émission, nous abordons notamment les questions liées à la lutte contre Ebola, la corruption, la pauvreté ainsi que l'insécurité en RDC. Produite avec les concours de Kelly Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki et Pelékipé Lamondo, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Alex Claes était à la technique. Merci de rester à l'écoute. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro spécial un panel constitué des ambassadeurs du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni qui reviennent de la province de l'Équateur où sévit l'épidémie d'Ebola. Avec respectivement Nicolas Simard, Mike Hammer et Emily Maltman, nous parlons de la lutte contre Ebola dans cette province, de l'apport du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni dans la lutte, mais aussi des efforts de développement que ces trois pays apportent à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, bonjour et bienvenue dans Grande Interview.
Bonjour.
Alors tout de suite, parlons d'abord de votre visite dans la province de l'Équateur. Qu'est-ce qui a motivé votre visite, Madame Émilie?
Alors, nous sommes dans le quatrième mois de cette épidémie d'Ebola à l'Équateur et on voulait voir, première vue, ce qui se passe, quels sont les défis et comment nous puissions aider à la riposte.
Et donc, vous avez observé sur place plusieurs réalités, Monsieur l'ambassadeur Nicolas, dans la manière dont la RDC organise la riposte. Comment évaluez-vous déjà ce qui est fait sur place?
Ben, je pense que la RDC, aujourd'hui, dans cette épidémie, la 11e épidémie dans l'histoire du Congo, a vraiment tous les outils nécessaires pour pouvoir gérer très bien cette épidémie. Donc, on a été dans cette visite avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui est une sommité internationale dans le domaine de la lutte contre Ebola, qui a découvert lui-même le virus en 1976. Donc, on se rend compte à quel point la RDC a tout ce qu'il faut pour vraiment juguler cette épidémie. Mais malheureusement, ce sont des questions de gouvernance, ce sont des questions d'organisation qui viennent ralentir la gestion de cette riposte et qui pourraient éventuellement mener à une propagation dans d'autres territoires, voire dans d'autres pays.
Et donc, Monsieur Mike, au regard de ces constats, à votre avis, vous craignez qu'il y ait réellement une propagation de l'épidémie?
Bon, on est préoccupé parce que bon, l'épidémie continue. Vous souvenez que la dernière fois à l'Équateur, c'est seulement 2 mois, en 2018. Et maintenant, comme ma collègue Emily a dit, on est le quatrième mois et ça continue de petit en petit. Et c'est ça la raison qu'on a voyagé avec le professeur Mouyembe, il était avec nous, pour examiner comment la riposte marche. On peut voir vraiment quand on a voyagé par bateau à Ngende pour visiter un nouveau laboratoire que notre Centre for Disease Control, avec notre expert, met en place à Ngende et après à Bikoro et aussi au Balonmo, que les distances sont difficiles, la géographique c'est difficile, il y a des problèmes de logistique, il y a aussi des problèmes de communication. C'est très important de nous le savoir pour voir comment les États-Unis, les autres pays, la communauté internationale peuvent soutenir l'effort congolais. Mais comme mes collègues Nicolas a dit, vous avez tout l'expérience et la capacité pour affronter ce défi, comme vous l'avez fait 10 fois avant. Mais on est ici pour soutenir les efforts de le gouvernement, les efforts du professeur Muyembe. Comme vous savez aussi, on a des vaccins qu'on peut utiliser pour prévenir l'Ebola, et on a aussi des traitements qu'on a établis à travers les recherches de l'INRB et le National Institutes of Health. So, ça signifie qu'aujourd'hui, il n'y a raison que quelqu'un meure de l'Ebola. Et quand on était en place là, on avoue que les survivants de l'Ebola avant sont des travailleurs maintenant pour aider leur communauté. C'est très important qu'il y ait des survivants qui sont des femmes qui sont en train d'aider la population maintenant.
Et justement, Madame Émilie, vous avez été touchée par le travail des femmes dans cette épidémie en Équateur, les femmes qui jouent le rôle d'épine dorsale.
Oui, exactement. C'est les femmes qui sont en première ligne, soit dans leur maison, dans leur ménage, ou même dans les soins médicaux. C'est les femmes qui sont beaucoup affectées. Mais, comme mon collègue Mike a dit, on a rencontré les femmes qui sont engagées par les reports. Par exemple, les berceuses qui s'occupent des enfants d'une mère qui est affectée pour éviter que leurs enfants sont touchés. Mais elles ont expliqué que, bon, c'est bien d'être impliqué dans la riposte, mais nous espérons que la riposte dure pas beaucoup de temps. Ce qu'elles voulaient, c'est un appui pour après, pour d'autres opportunités économiques pour la long terme.
Fidèles auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Dans une grande interview de séjour, nous recevons 3 ambassadeurs amis à la République démocratique du Congo, Monsieur Mike Hammer des États-Unis, Madame Emily Matman du Royaume-Uni et Monsieur Nicolas Simard du Canada. Alors, Monsieur Nicolas, comment le Canada accompagne-t-il déjà la République démocratique du Congo dans cette crise? Avez-vous un programme spécifique, notamment pour aider les femmes considérées comme l'épine dorsale de la société congolaise?
Oui, absolument. Dans le cadre de cette crise Ebola, on a des financements humanitaires qui ont été annoncés par notre ministre du Développement international cette année, qui sont de l'ordre de 37,6 millions de dollars canadiens. Mais au-delà de ces financements, avec notre programme d'aide au développement, nous travaillons principalement pour transformer la RDC, appuyer les communautés à l'échelle de la RDC, à travers ce qu'on appelle notre politique d'aide internationale féministe. Donc, en travaillant en priorité avec les femmes et les filles à l'échelle du pays, parce qu'on est convaincu que c'est à travers ce genre d'accompagnement qu'on peut obtenir les meilleurs résultats. Donc, on a une programmation annuelle autour de 135 millions de dollars canadiens qui touche plusieurs volets. La santé est un volet important, mais aussi la gouvernance et l'appui aux enfants, les enfants de la rue, les enfants dans les environnements des mines. Et pour nous, travailler en appui aux organisations féminines est une utilisation maximale, finalement, de nos financements d'aide au développement.
Alors, Madame Émilie, cette épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo n'est pas la première. Ne pensez-vous pas qu'il soit opportun aujourd'hui d'orienter l'aide du gouvernement britannique dans le renforcement du système sanitaire congolais?
Absolument. Et une des choses que nous avons constatées pendant cette visite, c'était que le système de santé est si faible dans une province comme Équateur, qu'en fait, on doit utiliser la riposte comme opportunité de renforcer les capacités de soins médicaux. Et en fait, on est arrivé juste après une période de grève des personnels médicaux. Et en fait, c'était à cause de manque de paiement. Et c'est ça qui nous a affecté beaucoup. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que les médecins et les infirmières ne sont pas payés par l'État, qui sont engagés par l'État? Et d'aller en grève pendant une crise, une épidémie, c'est incroyable. Donc ça veut dire qu'ils étaient tellement ils avaient tellement de honte du gouvernement qui n'avaient pas payé leur salaire. Donc je crois que cette opportunité avec Ebola, c'est une opportunité de revoir comment le gouvernement s'occupe de les soins médicaux dans ce pays et le système médical. Et nous voulons que, après cette épidémie Ebola, le système santé est mieux qu'avant.
Est-ce que vous avez déjà une idée concrète de la manière dont va être cette aide, Monsieur l'ambassadeur?
Bon, on est en train de le faire. On a visité un centre de traitement d'Ebola qui est construit avec le concret. Il sera là après cette épidémie d'Ebola pour aider avec le traitement des autres maladies. So, on est en train de penser comment est-ce qu'on peut invertir dans le système de santé maintenant dans cette riposte d'Ebola pour aider l'Équateur dans le futur pour les autres maladies. So, on est en train de le faire vraiment, mais c'est une priorité que les États-Unis soutient. On l'a fait à l'Est. Et on a bon, beaucoup de programmes de développement dans les diverses régions et aussi dans les diverses industries. C'est la question de la santé, c'est la question de l'éducation, c'est la question de la sécurité. Mais bon, et je suis heureux que les États-Unis contribuent presque 600 millions de dollars par année d'assistance pour aider le développement du pays. Mais ça, c'est aussi très important de comprendre, c'est que la RDC a beaucoup de potentiel. Il n'a pas seulement la richesse naturelle, mais la richesse d'un peuple dynamique. Et la priorité, c'est de développer la capacité. Pour développer la capacité, c'est aussi nécessaire de faire la lutte contre la corruption et de promouvoir la sécurité. Et c'est ça qu'on est en train de faire, de soutenir la vision du président Tshisekedi pour le changement, de mettre fin à la corruption et l'impunité, d'avancer le droit de l'homme et aussi de générer de la prospérité à travers de plus de paix.
Justement, monsieur l'ambassadeur Nicolas, vous l'avez bien constaté à Bolamba, la population congolaise en a assez avec les pratiques de corruption. Le Canada, c'est un pays qui a beaucoup d'expérience dans la lutte contre la corruption. Comment envisagez-vous aider la République démocratique du Congo pour vraiment endiguer ce fléau?
En effet, vous avez tout à fait raison. Je pense que la corruption, c'est peut-être la plus grande épidémie de la RDC. Et c'est une épidémie qui a un impact sur toutes les autres épidémies. Et quand on était dans cette localité de Bolamba, il y a eu une manifestation spontanée de la population qui ont vu une personne qui venait de l'ancienne garde, qui était revenue comme par hasard, et qui finalement cristallisait par son apparition tous les enjeux liés à la corruption dans cette province, qui était très important. Et vous avez raison, la corruption, ce n'est pas propre qu'à la RDC. La plupart des pays du monde ont connu à un moment ou un autre de leur histoire des questions de corruption. Il y en a eu aussi au Canada, il y en a eu dans ma ville natale de Montréal. Bon, mais maintenant, on a pris des mesures pour pouvoir lutter contre la corruption et en sortir de manière à assainir les finances publiques. Donc, il y a de l'expertise au Canada, il y a de l'expertise dans les autres pays qui sont présents ici en RDC. Et je pense que l'idée, c'est de montrer surtout comment on peut contribuer avec cette expertise à changer les choses en RDC de manière à mettre fin à la corruption et à ce que les finances publiques servent ce à quoi elles doivent servir. La population.
Madame Émilie, le Royaume-Uni a déjà financé plusieurs projets en République démocratique du Congo, mais l'impression que ça donne, c'est qu'il n'y a pas vraiment des résultats concrets sur le terrain, ce qui nous fait penser à des types de détournements de fonds. Est-ce que vous envisagez à mettre en place un nouveau mécanisme d'accompagnement de la RDC pour que l'aide de votre pays bénéficie réellement à la population congolaise?
Merci pour la question. En fait, on n'a pas beaucoup d'expérience de détournement de nos propres fonds, mais souvent nos fonds vont vers les organisations internationales ou les ONG internationales parce qu'on n'a pas confiance dans les organisations congolaises. Mais Ça c'est un manque aussi parce que ça évite que les Congolais et les Congolaises ont cette expérience de gérer leur propre ONG ou les ministères d'en profiter d'un accompagnement de proche de notre part. Mais par exemple dans le secteur de santé, nous avons des résultats. Il y avait une étude il y a 2 ans qui a constaté qu'en fait vraiment il y a une amélioration de livraison des médicaments. Mais c'est pas suffisant. Le problème, c'est que dans ce pays, le niveau est tellement bas d'accès à la santé. Mais déjà maintenant, on a contribué à vraiment des millions de accouchements assistés. Maintenant que il y a 10 ans, il n'y avait pas le taux de mortalité des enfants moins de 5 ans est beaucoup mieux maintenant, mais c'est encore très bas en comparaison avec d'autres pays dans le monde. Donc, il y a un long chemin ici au Congo, et la contribution de l'aide au développement du Royaume-Uni, c'est pour continuer de renforcer ses capacités et de aider le Congolais de vraiment être le chauffeur dans le propre chemin.
Alors, Monsieur l'ambassadeur Maïk, dans plusieurs déclarations, vous avez affirmé que les États-Unis sont vraiment disposés à aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'impunité surtout. Oui. Comment concrètement vous comptez matérialiser toutes ces affirmations?
Oui, bon, on a des contacts à travers le gouvernement avec la nouvelle agence contre la lutte contre la corruption, et on se tient avec des trainings, se tient à travers des ressources de notre ministère de justice aux États-Unis, aussi la FBI, qui est notre agence de police spéciale, pour aider à développer les bonnes investigations. La décision des investigations sont pour l'agence, pour le gouvernement congolais, mais c'est très important d'avancer sur cette situation, et nous continuerons à soutenir les efforts pour mettre fin à la corruption et l'impunité. C'est clair que de temps en temps, les États-Unis sanctionnera des individus qui sont corrompus ou qui violent des droits de l'homme, c'est aussi une opportunité d'encourager à la population que les États-Unis aient avec la population. Quand je voyage à toutes les régions de ce pays, toutes les personnes me disent la même chose. La jeunesse me dit, aidez-nous à combattre la corruption. On ne peut pas établir notre business parce que tout de suite viennent quelques autorités à demander de l'argent. Et c'est clair que le peuple congolais voudrait le changement. Et il y a un président, à travers le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de avancer sur ça. Et c'est ça que les États-Unis sont en train de faire maintenant.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ces numéros les ambassadeurs des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. Avec eux, nous parlons maintenant de l'apport de leurs pays respectifs dans les efforts de la RDC de lutter contre la pauvreté, mais aussi l'insécurité dans la partie est du pays. Monsieur l'ambassadeur Nicolas, vous avez rencontré, dès votre retour de l'Équateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges et comment le Canada compte-t-il rencontrer les attentes de la RDC en matière de développement?
Oui, merci. C'est une excellente question. En fait, on a eu une audience avec le président Tshisekedi à notre retour de terrain dans la province de l'Équateur pour un peu échanger avec lui nos principales observations sur ce que nous avions vu lors de cette visite qui touche les questions dont on a parlé tout à l'heure avec les difficultés de géographie, les questions de corruption, les questions de ressources humaines, le renforcement du système de la santé, le rôle des femmes comme dans les communautés pour relancer l'économie au niveau local. Donc le président et nous étions absolument à 100% d'accord sur ce qu'il faut faire, et on est ici vraiment comme le disait mon collègue Mike et ma collègue Émilie, on est ici en appui à des priorités qui ont été définies par le président Tshisekedi au début de son mandat et qui sont maintenant mises en œuvre par le gouvernement. Donc, notre aide canadienne, en fait, elle est alignée parfaitement sur ces priorités. Elle touche à la fois, comme je disais tout à l'heure, les secteurs de la santé, le renforcement de l'appui aux enfants à l'échelle de la République démocratique du Congo, et la gouvernance aussi. On a eu un programme important avec la CENCO lors des dernières élections pour l'accompagnement électoral. À travers cet accompagnement, il y a eu plus de 16 millions d'électeurs qui ont été formés. Et ça peut aussi donner des résultats très intéressants en termes de déroulement de processus démocratique où les gens sentent qu'ils ont une voix et maintenant ils veulent que cette voix soit entendue. Et c'est à travers le changement que nous voulons accompagner que cette voix sera finalement vraiment entendue.
Alors, Madame Émilie, au regard des efforts de la RDC dans la lutte contre la pauvreté. Comment votre pays, le Royaume-Uni, compte-t-il vraiment appuyer ses efforts pour que enfin le peuple congolais voie aussi le bonheur?
Bon, merci pour la question. Alors, l'aide britannique ici en RDC est active dans beaucoup de secteurs. On en parlait beaucoup de le secteur de santé, mais aussi on est active dans le secteur éducation. Mais aussi, ce qui est important selon nous, c'est aussi le développement de l'économie congolaise. Parce qu'en fait, ce que nous voulons, c'est un bon jour de n'avoir plus besoin de l'aide des étrangers. Donc en fait, nous sommes beaucoup impliqués dans la question de amélioration du climat des affaires pour que les sociétés internationales, mais aussi congolaises, ont une meilleure chance d'investir ici sans harcèlement des autorités, et que les investissements, ça sert à une croissance économique dans ce pays. Et aussi, ça aide à les recettes de l'État congolais, pour que l'État congolais peut s'occuper de sa propre population. Ça c'est la vision à long terme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis entre-temps, surtout la pauvreté, le niveau d'éducation et accès à la santé, et aussi la situation à l'est du pays. Et là-dedans, c'est aussi important que l'État joue son propre rôle, qu'il y a vraiment un droit d'État. Et la population n'a pas peur des autorités dans leur village, dans les villes. Donc, c'est important aussi, à niveau de tous les acteurs internationaux ici, d'accompagner les Congolais dans leur propre chemin vers la stabilité, mais aussi la croissance économique.
Est-ce que vous avez des programmes particuliers en faveur des jeunes? Parce que généralement, les jeunes sont oubliés alors qu'ils sont la majorité de la population.
Oui, absolument. Le taux médian de l'âge médian des Congolais, c'est 19 ans. Donc, on fait la moitié du pays, c'est les jeunes, quoi. Donc, on fait, oui, beaucoup de nos programmes ciblent les jeunes au niveau d'éducation, surtout les jeunes filles. Mais aussi, on a investi, par exemple, dans l'accès à l'eau potable à Goma, qui évite que les filles doivent aller au lac pour porter de l'eau. Maintenant, s'il y a de l'eau près de chez eux, ça veut dire que la fille peut aller à l'école. Et c'est dans ce genre de programme qu'on veut, pas à pas, aider les jeunes et les Congolais de réussir dans leur propre vision du pays.
Alors, la toute dernière question de cette émission, monsieur l'ambassadeur Maïk. Comme vous le savez, plusieurs années maintenant, l'Est de la République démocratique du Congo est toujours instable. Des groupes armés qui sévissent, qui tuent, qui violent, qui blessent. Et votre pays, les États-Unis, est un partenaire privilégié de la RDC dans le secteur de la défense. Vous faites déjà beaucoup de choses, mais comment comptez-vous renforcer votre soutien pour aider la RDC à lutter efficacement contre l'insécurité dans l'Est du pays?
Oui, non, malheureusement, c'est une situation terrible. Les groupes armés, les groupes comme les ADF, qui tous les jours tuent des personnes innocentes, c'est vraiment brutal et nous le condamnons toujours. Et c'est un problème de sécurité très, très difficile. Mais comme vous avez dit, nous sommes en train de parler avec le ministère de Défense. Nous qu'il y a eu des améliorements de la situation des droits de l'homme, spécialement à respect de la traite de personnes et de mettre fin à les liens entre les FARDC et les groupes armés qui aussi utilisent des enfants soldats, qu'on a commencé à faire des trainings aux États-Unis pour les officiels de l'FARDC, aussi un programme pour construire de casernes pour améliorer la vie de l'FARDC et de sa famille. Mais ce n'est pas seulement un problème militaire. Et bon, si c'est comme ma collègue Emily a dit, l'État congolais doit établir son autorité dans cette région. C'est difficile, mais ce n'est pas seulement à travers d'une offensive militaire, mais on doit avoir le dialogue, spécialement avec quelques de ces groupes. Et il y a un programme qu'on soutient, les États-Unis, notre pays, de la DDR, de la démobilisation de la réintégration et de sa maman de les militants que MONUSCO travaille. Vous connaissez bien Radio Capi, le programme de MONUSCO. Et il y a de la bonne volonté. On a discuté avec les trois gouverneurs de l'Est, d'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Ils étaient ici à Kinshasa. On a des réunions avec lui. Et il y a des bonnes idées. Et c'est ça qu'on est en train de voir comment on peut avancer. Mais aussi, il y a des responsabilités des pays voisins, d'Ouganda, Rwanda, Burundi, d'aider à contrôler les frontières. Mais en tout cas, ça que c'est nécessaire, je voudrais retourner à quelque chose que Emily a dit, que Nicolas a travaillé beaucoup, c'est d'améliorer le climat d'affaires, de promouvoir l'investissement étranger au pays, parce qu'il y a beaucoup de ressources. Pour moi, c'est incroyable d'aller à Ituri ou voir comment il y a beaucoup de café, et le café sort à travers Rwanda. Ce n'est pas bon pour la RDC, parce que c'est illégal avec l'or, le cobalt, c'est tout ça. Et maintenant, à travers les partenariats privés publics, par exemple Nespresso commence à produire le café congolais. Il y a des opportunités. Si le climat d'affaires, que beaucoup de les ambassadeurs ont eu des discussions avec le président Tshisekedi le dernier décembre et encore une fois le mois de mars, pour améliorer. Et ça signifie qu'il y aura beaucoup plus d'investissements. S'il y a d'investissements et plus de prospérité, ça aussi aidera à la stabilité de l'Est. Mais c'est un grand défi, que ce n'est pas nouveau, c'est tragique, mais nous sommes impliqués.
Madame, messieurs les ambassadeurs, je vous remercie.
Merci beaucoup. Okay,
merci beaucoup.
Fin de grande interview sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs de la fréquence de la paix, je rappelle que nous avons reçu dans ce numéro spécial un panel constitué des ambassadeurs du Canada, M. Nicolas Simard, des États-Unis, M. Mike Hammer, ainsi que du Royaume-Uni, Mme Emily Matman. Nous prenons rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05. Merci et au revoir.